7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, dans les coulisses d'université en région parisienne avec notre reporter Charlie Dupiot. Des cages d'escalier utilisées comme salles de prière, des cours contestés au nom d'une interprétation des textes sacrés ou encore des refus d'aller en cours pendant les fêtes religieuses. Depuis quelques années, l'université voit le principe de laïcité défié. Loin de l'actualité brûlante des djihadistes français, nous avons donc cherché à comprendre dans la vie de tous les jours à quoi étaient confrontés finalement certains campus. La loi de 2004 qui interdit le port de signes religieux dans les écoles, dans les collèges, les lycées français a finalement laissé les universités dans un relatif vide juridique. Libre à elles de se débrouiller avec des règlements intérieurs potentiellement explosifs. L'université française et la laïcité, tabou et désarroi, c'est une enquête de Charlie Dupiot. Bonjour Charlie Dupiot.
Bonjour.
Vous avez enquêté dans deux universités en région parisienne où la question de la laïcité est à la fois tabou et omniprésente.
Oui, alors nous partons d'abord pour l'université Paris-Ouest Nanterre, en banlieue ouest de la capitale. J'ai rencontré Yolaine Dilas Rochereux, elle est maître de conférences en sociologie.
J'enseigne à Nanterre depuis une trentaine d'années, donc j'ai pu voir quand même les évolutions. Ça permet de suivre les événements. Et si on m'avait dit, il y a même encore 20 ans, tu vas être confronté à ce phénomène-là, je ne l'aurais jamais cru. J'aurais pu vous faire lire des copies. Quelquefois, on est surpris des réponses.
C'est-à-dire
quand quelqu'un m'écrit Karl Marx s'intéressait au capitalisme, déjà, vous voyez les réponses, parce qu'il était juif. J'ai beaucoup, par exemple, d'antisémitisme dans mes réponses. Ou alors, si je pose une question sur le sentiment religieux, les origines du sentiment religieux chez Durkheim, comme réponse, j'ai l'islam est la seule religion, la vraie religion. Moi, je mets zéro. Vous voyez, c'est des trucs mais absolument dingues. On dit, mais comment c'est possible?
Donc ça, c'est des élèves qui vous écrivent ça
dans
en examen.
Copies d'examen. C'est la deuxième, c'est la troisième génération d'immigrés et c'est des populations qui sont mal à l'aise, qui savent pas qui elles sont, qui ont des difficultés. Pas toutes, faut pas non plus victimiser tout le monde. Alors il y en a qui s'en foutent, faut aussi voir ça aussi. Des gens d'étudiants musulmans, ça les intéresse pas tout ça, ils trouvent ça complètement cinglé. Mais on a une bonne proportion d'étudiants musulmans qui sont totalement là-dedans. Moi, un jour, un étudiant m'a dit, mais vous savez, parce qu'il avait une mauvaise note, il m'avait dit, c'est humiliant d'avoir une mauvaise note de la part d'une femme. Et j'ai dit, mais jeune homme, si vous voulez avoir une bonne note, il n'en tient qu'à vous, avec une femme ou avec un homme. Mais si vous êtes humilié, c'est parce que vous ne foutez rien, mais pas parce que je suis une femme. Vous voyez, il y a des jeunes étudiants musulmans qui ont beaucoup de mal avec des profs femmes, bien entendu. Quand vous voulez parler des relations aux femmes, quand vous voulez parler du religieux, si je fais un cours sur la laïcité, j'ai en face de moi une censure. J'ai en face de moi des gens qui me font barrière. Moi, une fois, il y a une fille voilée en tchador qui est sortie du cours en claquant la porte. Et j'ai eu sur les murs de l'université, à ce moment-là, peut-être 3 heures après, Dilas égale une balle dans la tête.
Voilà. Une menace de mort.
Une menace de mort, bien entendu.
Oui, parce que vous enseignez une matière qui est délicate aussi.
Bien sûr.
L'idéologie.
Moi, j'enseigne les idées obligatoirement. Je suis confrontée aux religions. Qu'est-ce que dit Durkheim ? La religion n'a pas toujours existé, c'est une construction humaine, c'est une approche rationnelle des religions. Et ces filles ne peuvent pas accepter ça.
Et concrètement, il se passe quoi quand vous dites ça pendant vos cours ?
Elles s'en vont, soit elles viennent plus à mes cours, parce qu'elles estiment que je suis islamophobe, c'est tout, tout simplement.
Vous parlez de censure.
Moi, j'en fais pas beaucoup. Mais je me suis aperçue quand même, j'ai un cours sur la mondialisation, sur le multiculturalisme, et je me suis aperçue qu'il y avait des choses que j'avais enlevées, des choses, sur la religion. Et après, je me suis dit, mais pourquoi tu l'as enlevé ? C'est de l'autocensure, ça veut dire ce que j'ai pas envie de discuter. Beaucoup de profs ici, même sans le savoir, ne parlent plus de tout ça. Et puis ici, il y a des salles de prière clandestines un peu partout. Donc des fois, vous avez une étudiante ou un étudiant qui sort de votre cours, puis il revient 10 minutes après, il est allé prier. Il vous le dit pas, mais vous le savez.
Vous montrez les endroits où on prie ?
Vous pouvez venir si vous voulez. Je vais vous montrer si vous voulez où c'était. Je ne sais pas si ça y est toujours. Parce que...
Donc là, on va au bout d'un couloir.
Voilà, les tapis sont là. Vous voyez ?
Ils sont pliés en fait dans un coin, il y en a 5 ou 6.
Oui, et puis avec des cartons qui sont mis sur le sol. Donc là, c'est vraiment un endroit tranquille.
Là, en fait, on est juste à côté d'une issue de secours.
Oui, au bout d'un couloir et d'un escalier. Donc là, vous avez une salle clandestine. Puis vous en avez une autre de l'autre côté, où c'est plutôt les filles qui vont de l'autre côté. Vous voyez, deux garçons qui sont en train de prier là, dans cette salle. Et il paraît, il y a ça dans toutes les UFR.
Vous avez essayé d'en parler à la hiérarchie, par exemple, dans cette salle de prière?
Oui, on m'a dit que c'était interdit, qu'on les enlevait régulièrement, mais...
Yolaine Dillas-Rochelieux, cette enseignante a participé à la mission Laïcité en 2010, Charlie Dupiau, qui a réalisé notamment un rapport sur la laïcité à l'université.
Alors oui, ce rapport a été commandé en 2010 par le Haut Conseil à l'intégration. C'est une institution créée en 1989 qui aujourd'hui n'existe plus. Entre 2010 et 2013, la mission a auditionné une trentaine d'acteurs de la vie universitaire. Il fait état de la montée depuis une dizaine d'années de revendications communautaristes, souvent un caractère religieux. Le contenu de certains enseignements est contesté, la mixité est parfois récusée au niveau des enseignants ou des étudiants, et puis, on l'a entendu, certains étudiants prient clandestinement dans des lieux de culte improvisés. Alors, il s'agit d'une minorité d'étudiants, dans une minorité d'universités françaises, précisons-le. Nous repartons donc à Nanterre, où j'ai rencontré plusieurs étudiants, comme cette jeune femme en djilbeb, un voile qui entoure son visage en fait et descend jusqu'aux genoux.
Donc j'ai 20 ans. Ma mère, elle est née en France et mon père, il est né en Tunisie. Et je suis en première année de licence d'histoire. Avant, je suis passée par un bac professionnel. En fait, j'hésite entre ici et les BTS. Et l'avantage, c'est qu'à la fac de Nanterre, ben, je pouvais garder mon voile. Donc, j'ai quand même préféré venir à la fac.
En BTS, on ne peut pas porter le voile?
Non, ben non, c'est dans un lycée. Donc, à la fac, on a plus de liberté. Ça a vraiment compté dans mon choix.
À la base, vous auriez préféré faire un BTS?
Oui. Management des unités commerciales. Puis après, je me suis dit que la religion, ça passait vraiment avant l'école. Plus le temps y passe et plus on s'y met vraiment à fond dedans, et les gens, ils se rendent pas compte qu'en fait, c'est un bien pour nous, qu'on se sent mieux. Et je pense qu'à la fac, il y a beaucoup de personnes qui viennent pour ça.
Ah oui?
Oui, ça se voit même dans les garçons. Ça se voit qu'à la fac, ils se sentent à l'aise. Parce que pendant qu'on est en BTS ou alors au lycée, on peut pas quitter les cours pour aller prier, on peut pas se permettre de faire ça.
Vous faites les 5 prières quotidiennes?
Oui, les 5. La plupart du temps, je suis en amphi quand c'est l'heure de prier. Donc, je quitte l'amphi 5 minutes. Je vais prier, ensuite je reviens. Il y a quelqu'un dans la salle que je connais qui peut me redonner les cours. Et puis, le fait qu'il y ait des salles de prière, ça évite que beaucoup de filles sèchent les TD ou bien les amphis pour aller à la mosquée ou aller ailleurs. Parce que je connais beaucoup de filles qui ont arrêté l'école parce qu'elles ne pouvaient pas porter le voile ou alors parce qu'elles ne pouvaient pas vraiment pratiquer leur religion.
À quel niveau?
La plupart au lycée ou alors même au collège, j'en connais.
Est-ce que par exemple, ça vous est arrivé que certains cours vous choquent ou vous interpellent par rapport à ce que vous avez appris dans la religion?
Oui, certains cours. Vu que je suis en histoire, il y a l'histoire des religions ou alors il y a l'histoire de la création du monde. Et par exemple que Adam et Ève, ils n'ont jamais existé, que c'est un mythe biblique. Parfois ça me choque parce que c'est pas en rapport avec mes convictions, c'est pas ce que je crois. Donc des fois j'ai pas trop envie d'écouter, mais je m'y intéresse quand même.
Et pour vous, la laïcité, ça veut dire quoi?
La laïcité pour moi, ça serait plus respecter toutes les religions, que chacun puisse exprimer ses convictions.
Petit rappel sur la laïcité, la charte de la laïcité de 2013 à la suite de la loi de 2004 doit être affichée aujourd'hui dans toutes les écoles, dans les collèges, dans les lycées, mais pas dans les universités. Cette charte précise que la laïcité permet la libre expression de ses convictions dans le respect de celles d'autrui et dans les limites de l'ordre public. Voilà, alors qu'est-ce que l'ordre public? Charlie Dupiau, vous avez également rencontré à l'université de Nanterre, aux abords d'une des salles de prière, un étudiant l'Iran qui, lui, se présente comme salafiste.
Oui, alors le salafisme, vous savez, c'est ce courant très rigoriste qui revendique un retour à l'islam des origines et qui s'inscrit dans une logique sectaire, à ne pas confondre avec djihadiste, dont on entend beaucoup parler en ce moment, avec le départ de certains pour la guerre sainte en Syrie. Tous les salafistes ne sont pas djihadistes. Entre 12 000 et 15 000 salafistes en France, selon une enquête du ministère de l'Intérieur en 2010, sur 5 à 6 millions de musulmans, c'est donc une minorité. L'étudiant salafiste que j'ai rencontré porte la barbe, il a 20 ans et il est en 3e année d'économie, né en France de parents algériens. Et en parlant, à aucun moment il ne m'a regardé dans les yeux.
Du côté de mes parents, ça s'est plus transmis par coutume. Ils sont en Algérie les deux. Donc j'ai par exemple ma mère qui prie, mon père y prie aussi quelquefois. Mais à part ça, ils ne vont pas chercher plus loin. Quand on dit chercher plus loin, c'est d'étudier la religion.
Mais vous le faites ça, vous étudiez la religion ?
Je prends des cours d'arabe à côté. Et à côté, j'étudie pour l'instant les bases de ma religion. C'est à l'âge de 16 ans, 17 ans que je me suis mis dans la religion. Bon, c'est un retour vers l'islam, on va dire. Il y a plusieurs personnes à l'université qui sont de ce courant salafiste. Un peu moins de la moitié, ou voire la moitié qui vient de prier ici, ils sont, je crois, de ce courant.
Quel est votre rapport aux femmes ? Est-ce que vous en voyez ? Est-ce que vous en fréquentez ou pas ?
J'en fréquente pas et j'en vois pas, non. Je m'éloigne au maximum de la mixité, malgré le fait qu'à l'université, c'est un peu dur, puisqu'on est toujours en contact. Maintenant, si c'est pour ce qui est de travail ou les études, ça, c'est autre chose. Mais je vais pas aller sympathiser avec une femme pour devenir son amie.
Étudier le management, c'est aussi vous confronter à croiser des femmes. Pourquoi est-ce que vous avez voulu absolument faire des études ?
Personnellement, ce serait de monter ma start-up. Les études me permettraient d'acquérir beaucoup de connaissances pour pouvoir développer mon entreprise. Et si ça marche pas, je compte partir de France, tout simplement. Comme par exemple aux Émirats Arabes Unis, il y a plein d'opportunités pour des gens qui veulent vivre leur religion et en même temps travailler. Je me sens pas français.
Vous êtes né en France pourtant ?
Je suis né en France, mais quand je parle avec un Français, j'ai aucun point commun, à part la langue. Mais de ce qui est des valeurs, de la religion, des coutumes, j'ai rien à voir avec un Français de pure souche. Même là, dans les amphis, c'est rare qu'on soit mélangé.
Donc vous n'êtes pas mélangé entre quoi ? Entre étudiants musulmans d'origine maghrébine et entre étudiants français de souche, comme vous dites ?
À part maintenant, s'il y a des intérêts pour ce qui est du travail. J'étais dans une école ZEP.
Zone d'éducation prioritaire.
Et on était contre nous, donc ça ne posait aucun problème. Il n'y avait pas de problème d'intégration.
Qu'entre nous, c'est-à-dire ?
Français d'origine immigrée.
Et c'était où cette école ? Vous avez grandi où ?
À Colombes.
Dans une banlieue riche et en même temps qui a des quartiers assez défavorisés.
Où j'habite, c'est vraiment la frontière entre la zone où il y a les cités et la zone où il y a les pavillons. Et moi, mes amis sont tous de la zone où il y a les cités. La plupart, ce sont des Maghrébins. Des Maghrébins ou d'Afrique noire. Maintenant, le fait voilà, que j'ai été seulement avec des personnes d'une certaine communauté, ça joue énormément sur le fait de ne pas se sentir intégré. C'est vrai que si peut-être je serais né au 16e arrondissement et que j'aurais vécu seulement avec des Français, peut-être que j'aurais eu les mêmes valeurs qu'eux et la même manière de penser que les Français de pure souche, on va dire. Mais voilà, quand on est dans ce genre de collège, c'est difficile de travailler, de faire une filière générale et de faire de longues études. C'est très très dur.
Enquête sur la laïcité à l'université en France aujourd'hui chez 7 milliards de voisins. En 2013, le rapport du Haut Conseil à l'intégration sur la laïcité à l'université a fait polémique en relevant de nombreux contentieux, je cite, mais en même temps, ce rapport préconise aussi 12 recommandations qui devraient, en principe, aider les universités, Charlie Dupiot.
Oui, par exemple, inscrire dans les règlements intérieurs de chaque établissement les obligations de tout étudiant en matière de laïcité ou encore afficher une charte de la laïcité dans les locaux. Mais en fait, le contenu de ce rapport a été réduit à la proposition la plus médiatisée, c'était d'interdire le port de signes religieux dans les salles de cours et les autres lieux d'enseignement et de recherche, comme pour l'école, avec la loi de 2004. Alors, ce rapport a été tout simplement censuré sur le site du Premier ministre, tellement le sujet était explosif. D'ailleurs, pour certains professeurs, comme Yolène Dillas-Rochereux, le sujet n'est pas pris à la mesure de ce qu'il signifie.
Je pense que c'est un sujet tabou aujourd'hui. Même entre nous, c'est difficile d'en parler. C'est cette peur d'être désigné comme islamophobe ou raciste ou autre. Hein, on veut pas qu'on nous prenne pour ce qu'on n'est pas. Et donc, on préfère ne rien dire. Et en même temps, il y a une certaine haine de soi chez les intellectuels. Vous voyez, ils se fouettent un peu tous les matins parce qu'ils sont occidentaux, parce qu'ils sont blancs, parce qu'ils sont de la classe supérieure. Ils considèrent souvent que ces jeunes font partie des classes défavorisées, de victimes, et donc ils doivent obligatoirement être de leur côté. On est des anciens colonialistes, on est des anciens tout. Bon, on doit accepter certaines choses parce que on doit se racheter d'une certaine manière. On est des méchants. Et donc, avec certains, je préfère pas en parler. Vraiment, je fatigue et puis je comprends pas. La religion, pour moi, c'est du domaine personnel. La fac, c'est un endroit où on peut parler de tout. Donc, ça me dépasse.
Tous les problèmes que vous soulevez de ce qui se passe ici, à Paris-Ouest-Nanterre, comment on peut les résoudre? Qui peut les résoudre?
Le politique. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de faire le lit du Front National. En ne voulant pas voir les problèmes, en ne voulant pas résoudre les problèmes, en refusant de légiférer sur certains points, de mettre en place des moyens pour intégrer tous ces jeunes qui sont paumés, qui sont déphasés, eh bien, on fait le lit du Front National. Tout simplement. Il y a des lois, hein, donc les lois, il suffit de les imposer. Mais il faut que les politiques soient courageux. L'université, elle pourrait très bien avoir une charte de la laïcité en disant ça c'est permis, ça c'est interdit. C'est tout. Vous vous pliez à cela. Point. C'est tout. Il suffit d'avoir un peu d'autorité. Au nom de la liberté, on ne peut pas tout autoriser.
Justement, Charlie Dupiau, quels sont les textes concernant le sujet de la laïcité à l'université?
Alors, il n'y a aucun texte, juste un guide en 2004, publié par la Conférence des présidents d'université au moment du vote de la loi qui interdisait le port de signes religieux et qui ne concerne que le primaire et le secondaire. Sinon, il existe un seul article dans le Code de l'éducation qui stipule « Le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ». Voilà. Et certaines universités ont inclus dans leur règlement intérieur des règles de ce type. Ce n'est pas le cas de l'Université de Nanterre. Écoutez le point de vue de Catherine Kinsler, philosophe spécialiste de la laïcité.
Actuellement, les universités sont autonomes. Moi, personnellement, je serais favorable à ce que chaque université puisse prendre des mesures qui sont appropriées à leur situation dans un règlement intérieur. Parce que les situations sont très différentes selon les lieux, selon les disciplines enseignées. Seulement, ça ne marche pas parce que chaque fois que ça s'est produit, il y a eu quelques universités qui l'ont fait, eh bien, les tribunaux administratifs cassent parce que, effectivement, il faudrait que la mesure soit nationale. Donc, on est dans une situation du tout ou rien, si vous voulez. Ou bien on laisse faire, on étouffe, et à ce moment-là, nous avons des situations qui vont se propager. Il ne faut pas se leurrer. Lorsque le problème s'est posé en 89, pour les lycées, on nous a dit, ce n'est rien, c'est un petit fichu, il y a des signes, mais bon, il n'y avait pas d'ailleurs que le voile, hein, il y avait aussi des kippas. Puis finalement, ça s'est tellement répandu qu'il a fallu revenir à la loi de 2004. Il y a eu 15 ans de discussion.
Au sein de l'université, à quand ça remonte en fait ça?
J'ai vu se déployer ce genre de manifestation avant. J'ai eu des échos sur des éléments qui se passaient bien avant 2004. Maintenant, il y avait une espèce d'omerta aussi. Ça ne se dit pas. Vous savez, le milieu universitaire est extrêmement feutré. C'est un milieu où les choses se disent une fois que ça devient vraiment trop gros.
Qu'est-ce qui est interdit alors à l'université?
Interdiction du prosélytisme, interdiction de faire obstacle, de récuser un enseignement à cause de sa nature. Il y a un code de l'éducation, il faut regarder en détail, mais les dispositions de ce type existent. L'enseignement supérieur est laïque, donc il faut respecter aussi les lois républicaines. L'enseignement doit être protégé parce qu'il a besoin d'un espace critique. Il n'y a pas d'autorité transcendante, a priori, qui réglerait d'avance ce qui peut être dit et ce qui ne peut pas être dit.
L'université française et la laïcité, tabou et désarroi. Suite de votre reportage, Charlie, dans 3 minutes, juste après le flash. Restez avec nous, les voisins et les voisines.
Milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, l'université française et la laïcité, tabou et désarroi. Loin du bruit sur le départ des djihadistes français, Charlie Dupiot, vous avez enquêté sur un débat feutré en terrain miné. Depuis quelques années, des campus constatent de la part de certains étudiants une difficulté croissante avec la laïcité à la française, telle que définie par la loi de 1905 qui impose la séparation de l'Église et de l'État. Depuis 2004, le débat sur la laïcité à l'université se débrouille avec un certain vide juridique laissé par la loi sur l'interdiction du port des signes religieux, mais qui ne concerne que l'école, le collège et le lycée. Le sujet revient donc épisodiquement dans la lumière avec quelques faits divers dans les campus. Des étudiantes portant le voile prises à partie par leurs professeurs, comme par exemple en septembre dernier à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence ou à la Sorbonne à Paris. Néanmoins, aucune loi n'interdit le port du voile à l'université. Charlie Dupiot.
Oui, alors, ce vide juridique explique peut-être les difficultés d'un homme, Samuel Mayol, directeur de l'IUT de Saint-Denis, c'est l'un des sites de Paris 13. Alors, quand Samuel Mayol prend la tête de l'IUT en septembre 2012, il entend bien y faire respecter la laïcité et il veut revenir notamment sur les droits acquis par une association étudiante qui s'occupe officiellement de la vie étudiante sur le campus. Il est aujourd'hui dans une situation très délicate.
Ce qui s'est passé concrètement à l'UT Saint-Denis cette année remonte surtout à quelques années. En fait, depuis quelques années, on a une association étudiante qui visiblement avait obtenu le droit de pouvoir vendre dans l'enceinte même de l'UT des sandwichs. En l'occurrence là, des produits halal. Donc apparemment, mon prédécesseur l'avait autorisé. Et lorsque moi j'ai pris la direction de l'UT, donc en septembre 2012, eh bien j'ai souhaité mettre fin à cette distribution de produits et de denrées alimentaires. Pour trois raisons. La première raison, c'était que dans les universités françaises, le CROUS, l'organisme qui gère les œuvres sociales des universités, a le monopole de la distribution des denrées alimentaires. Ça posait un autre problème, un problème aussi en termes de respect de la chaîne du froid et donc un problème d'hygiène. On avait des étudiants qui venaient comme ça, ils me posaient une table dans le hall d'entrée de l'UT avec des sandwichs dans un espèce de bac en plastique. On savait pas comment ils avaient été fabriqués, d'où venaient les produits. Et puis, le troisième élément qui nous ramène directement à notre sujet, c'est qu'effectivement, nous avions affaire à des produits, en l'occurrence là, des produits halal, donc des produits confessionnels. Et ça, ça me pose, moi, problème au regard de la laïcité. Je suis vraiment désolé, mais au sein des universités françaises, pour moi, la religion n'a toujours pas sa place. J'ai mis fin à cette vente de sandwichs, mais plutôt au début de l'année 2013. Et puis, finalement, depuis cette période-là, eh bien, il y avait une sorte de rumeur, mais c'était que des rumeurs, vous savez, selon lesquelles le local que l'association étudiante avait était transformé en lieu de prière. Alors c'est vrai que cette association avait donc le droit de vendre des sandwichs et était aussi la seule à pouvoir bénéficier d'un local dans l'IUT. Donc j'ai annoncé assez rapidement au cours de la rentrée 2013-2014 que j'allais récupérer le local et puis le partager entre toutes les associations étudiantes. Toujours est-il que à ce moment-là, eh bien, j'ai été très clairement menacé hein, par les responsables de l'association en question, avec des SMS du genre "on n'oubliera pas ce que vous faites", enfin des choses comme ça un peu limite. Hein, donc évidemment, tous ces messages-là, je les ai conservés, je les ai finalement convoqués là, de façon très officielle.
Donc là, on est en 2014.
On est en 2014, et donc ils ne sont pas venus. Mais 10 minutes après l'heure à laquelle devait avoir lieu ce rendez-vous, eh bien, l'IUT de Saint-Denis a été victime d'un appel anonyme envoyé au commissariat de Saint-Denis disant qu'une bombe avait été placée dans l'IUT. Donc une alerte à la bombe, une fausse alerte à la bombe en l'occurrence. Et donc là, du coup, on est rentré dans l'intégralité des lieux de l'IUT puisqu'il fallait qu'on fouille l'intégralité du lieu. Et au moment où on rentre donc devant le local de l'association étudiante, on voit bien que des tapis de prière sont présents et que le local, visiblement, semble avoir une deuxième activité. Et c'est ce jour-là que moi, j'ai commencé à avoir des menaces de mort avec d'abord des inscriptions sur ma voiture, comme "tu vas mourir", et puis ensuite des lettres. J'en ai reçu en tout et pour tout 15.
Qu'est-ce qui était écrit dans ces lettres ?
C'était « arrête tout, tu vas mourir ». Et puis jusqu'au dernier message où on parle de fatwa, où on appelle l'ensemble des musulmans de France à respecter cette fatwa et à me tuer. Bon, voilà, ça a été quand même un enfer pendant plus de 4 mois, hein, de février à mai, plus une agression physique dans une rue à Paris, au mois de mai. Donc là, j'étais à une réunion dans le 9e arrondissement et en sortant de cette réunion, j'ai été, au moment où je rentrais dans mon véhicule, tabassé par deux gars qui m'ont dit « on t'avait prévenu » et donc ils m'ont donné des coups de poing et ils sont partis en courant. C'était pas des étudiants, ils avaient pas du tout le gabarit d'étudiants, ils étaient beaucoup plus âgés, ils étaient même plus âgés que moi, ils étaient assez baraqués.
La question a complètement dépassé le cadre de l'université en fait, de l'IUT.
Oui, c'est clair. Alors soit c'était personne qui connaissait un tel ou un tel de l'IUT, je sais pas. Là, moi, franchement, j'ai vraiment aucun élément, je crois que les enquêtes de police ne sont pas closes sur ce sujet-là. Après cette agression, je me suis dit que visiblement les décisions qui avaient été prises ont vraiment gêné et dérangé. Et ensuite, ce qui m'a quand même très rapidement rassuré, c'est que j'ai quand même eu avec moi le soutien de la quasi-totalité du personnel de l'IUT et des étudiants. Donc il n'y a pas de raison que ce soit une minorité qui impose sa loi à une majorité dans des établissements comme celui d'une université.
Est-ce que vous vous êtes senti soutenu après ce que vous avez vécu par le monde politique et puis par le monde universitaire ?
Non, je n'ai pas été soutenu ni par le monde politique, ni par le monde universitaire. J'ai reçu quelques témoignages individuels de soutien, mais ça on en est resté là. Un peu comme si on avait peur de s'affronter au problème.
Des dirigeants d'établissements supérieurs plutôt seuls sur un sujet finalement très politique, Charlie Dupiau.
Oui, ils mènent, on le voit bien, leur combat en solitaire, même s'ils peuvent être soutenus par la majorité des étudiants. Ils sont souvent livrés à eux-mêmes en l'absence de réponse politique au niveau national. Contrairement, par exemple, à des chefs d'entreprise qui peuvent se payer les conseils de consultants spécialisés sur la question de la laïcité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette association étudiante dont on a parlé, l'Ouverture, a depuis quitté l'IUT de Saint-Denis. Aujourd'hui, elle est présente sur d'autres sites à Paris 13, comme celui de Villetaneuse, où je me suis rendue.
Bonjour madame.
Oui, bonjour monsieur. Vous auriez un sandwich, s'il vous plaît ?
Non, désolé madame, j'en ai plus.
Ok, bah merci beaucoup en tout cas.
Désolé,
bonne continuation.
Madame. Au revoir.
Bonjour, alors ici, on est dans un local associatif. Depuis combien de temps est-ce que vous proposez des sandwichs halal ici, à la fac ?
Exactement, 2 ans qu'on propose des sandwichs halal aux étudiants. On a fait la demande et ça a été accepté. Et voilà, nous on est là pour aider les étudiants, à la base. Et il y a beaucoup d'étudiants qui veulent manger du halal. On voudrait s'investir avec le Crous pour faire du halal, mais le problème c'est que le Crous ne nous écoute pas.
Comment vous les produisez ces sandwichs halal ?
On travaille avec une boulangerie qui nous livre tous les matins, frais, entre 100 et 150 sandwichs par jour. On propose aussi des sandwichs non halal. Bonjour.
Ah bonjour, on prend 4 malabar s'il vous plaît. Voilà. C'est combien ?
J'ai 18 ans depuis peu et je suis étudiante en droit en première année.
Vous mangez exclusivement halal aussi ?
Je fais aucune exception. Je ne mange que halal. Si je ne mange pas halal, je trouve un moyen. Je mange du thon, je mange du poisson très souvent.
Vos parents sont pratiquants ?
Mes parents sont pratiquants, mon père est imam. On est 6 en tout, donc j'ai 5 frères et sœurs. Je suis la petite dernière.
Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, vos frères et sœurs plus âgés ?
Donc un master en éco, donc prof. L'autre est encore dans ses études de droit. L'autre, il est conseiller mutualiste. On est une famille qui réussit très bien, mais je me dis que même si je travaille, moi, j'adore l'école, j'adore l'enseignement, mes professeurs, mais je serai jamais une personne avec un très joli prénom et une bonne tête... de française et je le vis très bien. Si à chaque remarque ou quoi on prend ça à cœur, on n'en finit plus.
Vous avez déjà eu des remarques ?
Par exemple, quand on part à la mosquée, donc on porte le voile. Donc je porte pas le voile actuellement. Dès qu'on part à la mosquée, on est obligé de porter le voile et les gens qui passent en voiture, ils nous regardent. Les dames âgées, elles s'éloignent.
Pourquoi vous ne portez pas le voile ?
J'y pense un peu plus chaque jour, mais je suis pas prête. Parce que je me pose des questions vis-à-vis de mon avenir, etc. Et surtout parce que je pense que si je le mets, mes parents, qui sont très pieux, mon père qui est imam, ma mère qui est très vertueuse, etc., ils voudront pas. Ils veulent qu'on réussisse notre avenir, ils veulent qu'on devienne quelqu'un, ils veulent... Pour nos parents, c'est tu fais tes études, t'essayes de te faire oublier en tant que petite musulmane ou quoi, et après, on verra. Peut-être qu'ils veulent s'accomplir à travers nous, ce qu'ils n'ont pas pu faire, peut-être, j'en ai aucune idée, mais ils veulent notre réussite.
Ils font quoi, vos parents ?
Mon père, il est actuellement retraité, et ma mère, elle est femme au foyer. Et par exemple, ma sœur, Camille Voile, et plus tard, s'est exilée à Londres, qui travaille dans l'import-export, Eh ben, ils n'ont pas envie qu'on vienne Israël. Ils n'ont pas envie qu'on s'éloigne. Ils n'ont pas envie que ce voile nous cause du tort.
Parce que votre sœur, elle est partie à Londres pour pouvoir porter le voile tout en travaillant.
Exactement. La plupart des familles, en tout cas maghrébines, on est leur fille, on leur dit, j'ai envie de porter le voile. Ils nous disent non. Ils m'ont jamais dit, ne mets pas le voile ou quoi. Mais au fond d'eux, je suis persuadée que je ne les satisferai pas. Donc, j'ai pas envie. Je ne suis pas prête. Même si, pour nous, la religion est bien plus importante que nos études. Et lorsqu'on parle de travailler, d'avenir, on se dit, est-ce que mon avenir est ici? Est-ce qu'il n'est pas dans un autre pays européen ou même un pays arabe qui accepte totalement le voile ou quoi que ce soit, qu'elles travaillent, qu'elles sont policières, qu'elles sont médecins voilées, il n'y a aucun problème? Je me pose des questions sur ma place.
En gros, vous hésitez entre la religion qui est très importante pour vous et l'envie de réussir en France.
Voilà. Malgré cette France qu'on aime tant, on pense à la quitter. Malgré qu'on l'aime tant, malgré que c'est elle qui nous a fait grandir, malgré que c'est elle qui nous a donné un enseignement, peut-être un jour on arrivera à réussir malgré notre culture, malgré notre tradition, malgré notre religion. J'espère.
À l'étranger pour pouvoir vivre pleinement sa religion. Un certain nombre d'étudiants musulmans ont cette idée en tête, même si peu franchissent finalement le pas à la fin de leurs études. C'est pour évoquer ces questions qu'à Paris 13, une commission laïcité a été ouverte, Charlie Dupio, en 2003, donc il y a plus de 10 ans maintenant.
Oui, à l'époque, le débat bat son plein autour de la question du voile à l'école. Selon la vice-présidente de Paris 13 à l'époque, certains étudiants se tournent alors vers l'université pour afficher en fait leur religion, là où cela est encore possible. Et sur plusieurs sites de Paris 13, des lieux de prière clandestins commencent à voir le jour à ce moment-là. La direction décide alors d'aborder le problème de front et convoque une commission d'une trentaine de membres, étudiants, professeurs, personnels de l'université. Le but, c'est de dialoguer, de voir ce qui pose problème. Par exemple, certaines étudiantes voilées ne comprennent pas pourquoi elles ne peuvent pas garder leur voile pendant les cours de sport pour des raisons de sécurité. En fait, le but de cette commission, c'est d'expliquer la laïcité. Alors aujourd'hui, 10 ans après le travail de cette commission, certains étudiants continuent de prier dans certains recoins du campus de Villetaneuse notamment, mais ils sont beaucoup moins nombreux qu'avant et les rondes de vigile de la sécurité n'y sont certainement pas pour rien.
Ce débat autour de la laïcité à l'université en tout cas est contesté. Certains professeurs réclament une troisième voie.
Oui, c'est le cas de Nassira Guenif Souilamas, ex-professeure à Paris 13. Aujourd'hui, elle enseigne les sciences de l'éducation à Paris 8.
Il me semble que l'essentiel consiste à dire de quoi la laïcité est-elle le nom. Ce qui me semble par contre intéressant, c'est pourquoi est-ce qu'on pointe ça alors que je ne suis pas sûre que les salles de prière en question clandestines soient bondées et que donc ce sera un phénomène d'invasion, voire de conquête, de colonisation, à l'envers. On en est quand même très loin. Donc l'essentiel des questions qui sont soulevées là sont des questions qui, à mon avis, sont marginales.
Ces comportements sont très minoritaires. Néanmoins, pour certains, ça pose des questions sur l'université.
Moi, je pense que la discussion mériterait d'être ouverte. Sauf qu'en général, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de discussion. Il y a un problème qui se pose, une décision qui tombe, et sa mise en application aléatoire, voire confrontée à des difficultés, puisque, effectivement, après, on est en train de faire la chasse aux gens qui sont musulmans et qui font la prière à l'université. Donc, tout ça devient un peu grotesque, pour tout dire, parce que c'est pas en humiliant les personnes qui se revendiquent d'une pratique musulmane qu'on va régler le problème de savoir est-ce qu'on fait la prière ou pas à l'université.
Mais vous sentez, là, qu'il y a une volonté d'humiliation de ces étudiants-là?
Je l'ai senti dans le propos de certains professeurs et je trouvais que c'était parfaitement déplacé, que franchement il n'y avait pas urgence, qu'il n'y avait pas panique. Hein. Alors je veux bien qu'ils soient animés d'une panique morale qui les regarde. Je vous rappelle quand même que le climat général est saturé d'islamophobie. Et je pense qu'il y a un moment tout à fait, un point de bascule de ce point de vue-là, dans la montée en puissance de la revendication de la laïcité contre l'islam. Et ce point de bascule, c'est les deux manifestations de 84 et de 96 qui vont voir définitivement l'échec de ceux qui veulent que l'enseignement confessionnel en France ne soit plus subventionné par l'État. Donc en fait, 96, c'est la fin de la guerre contre le catholicisme en France. Moi, il me semble que depuis ce jour-là, la question de la laïcité a été complètement aspirée du côté de la croisade anti-religieuse contre les musulmans. C'est comme si, en fait, il fallait se trouver un nouvel ennemi et qu'on n'en est pas sorti jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que c'est le travail de tous les enseignants non pas d'en parler de façon compulsive et systématique, moi je suis pas pour, hein. Par contre, je peux historiciser la laïcité, c'est-à-dire raconter dans quelles circonstances elle a émergé. Il y a une manière de faire entendre, encore une fois, le fait que on peut pas accueillir toutes les demandes de pratiques religieuses au sein de l'université. Par contre, on peut accueillir les pratiquants de ces religions.
Justement, à proximité de certaines universités, historiquement, il y a certaines aumôneries catholiques qui sont là. Mmh. Alors, certains étudiants musulmans, pratiquants, demandent à ce qu'ils aient eux aussi un lieu à l'extérieur de l'université.
Mais en fait, la réponse, elle existe. C'est qu'il faudrait que ces aumôneries ne soient plus fléchées, si j'ose dire, catholiques, mais qu'elles soient des lieux d'accueil de toutes les confessions.
Ce serait une des pistes de solution qu'on peut envisager.
Oui, mais de fait, hein, c'est les gens qui dirigent l'université qui sont en position d'instaurer un climat qui ne soit pas celui de la défiance.
Pluriconfessionnel à proximité, mais en dehors des universités, c'est une proposition, Charlie Dupiot, qui est rarement discutée. Reste à savoir si cela répondrait d'ailleurs aux aspirations des étudiants très pratiquants.
Oui, alors ces étudiants sont une génération de l'entre-deux, partagée entre leur religion, part intégrante de leur identité, et le désir de satisfaire leurs parents. La plupart de ces étudiants restent intégrationnistes et réussissent scolairement tout en cantonnant leur religion et leur culture d'origine dans la sphère privée. D'autres placent la religion au-dessus de tout le reste et tous se sentent visés par une islamophobie grimpante qui fait le jeu du Front National à une période où les départs médiatisés de jeunes pour le djihad en Syrie font confondre un islam et islamisme. J'ai rencontré deux étudiants à Paris 13 et tous les deux ne voient pas la laïcité de la même façon.
Donc, je m'appelle Zakaria, je suis en première année de DUT carrière juridique et j'ai actuellement 18 ans. J'habite à Saint-Denis dans le 93. Donc en Seine-Saint-Denis. Du côté de mon père et du côté de ma mère, on est tous pratiquants. Et la prière, bah, ça va faire environ 2 ans que je la fais. 5 fois par jour et le vendredi à la mosquée.
Comment vous faites ici depuis que vous êtes à l'université?
Bah, j'y vais tous les soirs à la mosquée.
Et vous ne priez pas à l'université?
Non. Parce qu'on va dire que c'est... voilà, c'est pas l'endroit, c'est une institution laïque. Dans un lieu public, on va pas pratiquer notre religion. Ça veut dire que les religions... elles n'ont pas à être montrées au regard de tous.
Comment vous avez appris ça? Qui vous a dit ça? Vos parents?
Déjà à l'école. Déjà, ça, je sais que les petits en primaire, on leur dit ça. Et en éducation civique, au collège, au lycée.
On leur dit quoi?
On leur instaure les valeurs de la laïcité. Qu'en France, on est obligé de respecter. Et moi, je suis d'accord avec ça. On est là pour les cours. Voilà, c'est pas le lieu de faire la prière. Il y en a que ça gêne, ça fait des conflits. Des bagarres ou des conflits avec l'administration et les élèves, voilà. Au lieu que nous, on crée les conflits, ben on préfère les éviter et on montre pas qu'on est pratiquant. La religion musulmane, elle est remise en cause par certaines personnes aujourd'hui avec ce qui se passe, par le terrorisme. Il y a des terroristes, ils font des attentats, c'est des Arabes. Et ben, en France, il y a des Arabes, ben c'est des terroristes. Ils sont dangereux, voilà, leur religion, elle est gênante, elle est dangereuse. Sauf que nous, on n'a rien à voir dans ça, en fait. À l'université, il y a ceux qui veulent défier, je veux dire les règles auxquelles on est soumis. C'est les exceptions, c'est ceux qui veulent se montrer et c'est eux qui créent les conflits. Non-respect de la laïcité, ils dégradent la religion. Ce genre de comportement, il pourrait donner une mauvaise image. À force de trop se montrer, ça peut énerver. Par exemple, si je respecterais pas la laïcité, par exemple, à l'université, bah là, tout de suite, qu'est-ce que je ferais? Bah, je prendrais mon tapis de prière, je le poserais là, et je ferais ma prière à l'heure. Si ça peut gêner quelqu'un, si j'aurais un caractère, on va dire, impulsif, et bah, la personne, je vais lui dire, écoute, je fais ma prière, si je veux la faire, je la fais, si t'es pas content, et bah, c'est la même. Si chacun ferait ce qu'il voudrait dans la société, bah, on s'en sortirait pas. En fait, ce qui peut détériorer notre religion, voilà, c'est tous ceux qui veulent l'imposer.
Donc j'ai 21 ans, je suis en deuxième année de AES à Paris 13, lutte laineuse. Administration économique et sociale, c'est une licence plutôt générale. Avant, quand, enfin, je pensais pas que c'était interdit de prier ici, donc j'ai amené moi-même mon habit pour prier. Donc j'ai un grand voile qui couvre tout, donc ma tête et mes formes, et un tapis aussi. Et je priais par exemple en dessous des escaliers ou dans des salles.
C'est pas forcément très agréable pour prier ici.
Non, mais on va pas prier en plein dans le couloir ou dehors au milieu de tout le monde. Donc on cherchait vraiment des coins isolés. Ma première année, j'y ai pu. Et à partir de ma deuxième année, j'ai arrêté parce que vraiment, là, j'ai vraiment compris que c'était interdit et on me l'a fait comprendre.
Qui vous l'a fait comprendre?
Bah, par exemple, les vigiles, quand ils venaient en fait un petit peu contrôler les salles, etc., on s'est fait attraper plusieurs fois. Il y en a qui vont peut-être transgresser les règles, mais...
Donc encore aujourd'hui, il y en a qui se débrouillent pour prier un petit peu dans l'université.
Il y en a qui se débrouillent, ouais.
Comment vous avez vécu cette interdiction?
Comme un peu frustrée, dans le sens où on dit qu'on est dans un pays laïque. Donc la laïcité, moi, de ce que j'apprends, de ce qu'on m'apprend en cours, c'est... Donc on a le liberté de culte. Moi, je retiens ça. Comme on est attaché à ces principes, donc la prière, etc., on a un peu de frustration dans le sens où on ne peut pas vraiment exercer notre religion comme on veut. Donc là, moi, j'ai arrêté de prier à la fac. Non, je me concentre sur mes études et je fais en sorte de ne pas avoir de problème ni avec le doyen, ni avec les vigiles, ni avec personne. Mes frères aînés m'ont toujours dit que c'était important, donc vu leur expérience, etc., ils n'ont pas eu tous le bac, etc., donc... Mais après, ça ne les a pas empêchés, de, par exemple, d'ouvrir une société ou un truc comme ça, même en n'ayant pas le bac. Mais je sais qu'ils ont bossé très, 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 très dur. Et je les ai toujours crus. Donc, pour moi, c'était évident de se mettre à fond, enfin, à bosser pour réussir au niveau scolaire. Déjà pour avoir le bac, et après, peut-être la licence, un master, et pourquoi pas plus. Et le fait de ne pas avoir de diplôme, ben, c'est un petit peu plus difficile pour nous d'accéder à des beaux métiers après, quoi.
Milliards de voisins sur RFI, enquête sur la laïcité dans les universités françaises. Charlie Dupiau, on remarque que la plupart des jeunes que vous avez rencontrés dans les campus placent finalement en concurrence la religion et la réussite scolaire, professionnelle, comme si à leurs yeux, ces deux notions s'opposaient l'une à l'autre.
Oui, c'est vrai. Alors pour essayer de comprendre, j'ai rencontré une sociologue qui a enquêté auprès de ces jeunes musulmans d'origine maghrébine, africaine ou turque à l'université. Elle a réalisé deux typologies et dans l'une d'entre elles, elle classe ces jeunes selon leur rapport à la société et aux études. Alors il y a d'abord les galériens qui ont eu des difficultés à l'école et qui ont fait un bac professionnel. Arrivés à l'université, ils ont beaucoup de difficultés à prendre des notes, à gérer l'autonomie qui est propre à l'étudiant. Et alors ils deviennent très critiques du système. Ils attribuent même leur échec à la société qui est selon eux raciste. Il y a aussi ceux qu'elle appelle les critiques, qui réussissent, mais qui partagent ce sentiment de frustration. Autre catégorie, les grimpeurs, ceux qui parviennent à intégrer des grandes écoles et qui surfent sur la vague de la diversité et des quartiers. Et puis, il y a la majorité, les intégrationnistes qui ont fait une filière générale. Leïla Arslan est sociologue. Elle a réalisé une enquête intitulée « Enfants d'Islam et de Marianne, les banlieues à l'université ».
Quand on compare finalement leur niveau d'études à celui de leurs parents, d'une certaine façon, il y a une progression quand même indéniable. Mais toutes les catégories accordent à l'école, à l'université aussi, donc finalement, une très grande place. Enfin, c'est la seule institution, le seul outil qui va leur permettre d'avoir une ascension sociale. Pour avoir une place dans la société, il faut un diplôme.
À l'université, j'ai rencontré moi plusieurs jeunes qui voulaient pratiquer leur religion à l'université. Ça pouvait être des filles voilées, ça pouvait être des jeunes garçons qui allaient prier dans certains endroits de l'université. Comment vous les situeriez dans votre typologie?
Si les jeunes filles sont voilées, je les mettrais en born again Muslims. Ce sont donc des gens qui ont grandi dans des familles musulmanes et qui se sont d'une certaine façon reconvertis aux religieux, dont la religiosité finalement va être vraiment assez différente de celle des parents. La façon dont les parents vivent leur religion, c'était beaucoup une religion sur le rite, sans forcément s'appuyer sur des livres. À l'inverse, les plus jeunes, donc ils utilisent différents supports pour finalement une nouvelle sociabilité religieuse, donc qui passe par les associations, qui passe par la lecture d'ouvrages, par Internet aussi.
Comment expliquer ça? Comment expliquer qu'ils aient une identification si forte à la religion?
Alors ça, faut se repencher sur les travaux d'un très bon sociologue, Farhad Rosro Avar, qui avait travaillé sur des populations qui sont nées en France, jeunes, de quartier, certaines avec aussi des parcours scolaires un peu compliqués. Et finalement, pour eux, l'islam, ça permettait de retrouver une dignité et de redonner du sens à un monde dont on ne saisissait plus les règles et dont on se sentait exclu. Et ça permettait également de se reconstituer une communauté de pères, pères P-A-I-R-S. Hein. Et quand on regarde par exemple sur la question des convertis qui vivent en quartier, on peut retrouver des choses comme ça, c'est-à-dire des jeunes qui sont pas musulmans, qui vont dire au moment du ramadan par exemple, par solidarité avec mes copains, voilà, je vais faire le ramadan aussi. Il y a quand même beaucoup une demande de règles. Et là, bah voilà, la prière, c'est à heure fixe, faut pas voler.
On a besoin d'un cadre, en fait. Voilà. Ces jeunes ont besoin d'un cadre.
Ils ont l'impression que c'est par le religieux que ça peut venir. Et comme d'une certaine façon, dans le discours public, il y a quand même beaucoup de méfiance, de rejet, voire des discours très rudes sur le religieux, et que pas mal de ces jeunes peuvent avoir un rapport de défiance vis-à-vis de la société et des institutions, puisqu'ils ont l'impression finalement d'être rejetés par eux, c'est une façon aussi de dire entre guillemets « merde, je vais exactement faire ce que vous voulez pas ».
C'était un reportage signé Charlie Dupio à la réalisation Jonathan Brady. Demain, 7 milliards de voisins, 40 ans après la loi Veil qui légalise l'avortement, bilan sur un débat qui, lui aussi, a déchiré la société française. À demain les voisins et d'ici là, bien sûr, tous vos commentaires sur les réseaux sociaux ou bien par mail à 7milliards@rfi.fr. À demain, merci de votre fidélité.